Les musiciens voyageurs. Il était une fois un âne de bonne maison qui, après avoir passé sa jeunesse dans une écurie commode dont il ne sortait que pour porter de belles dames, avait été réduit à traîner la charrette d'un fermier. Bien qu'il eût toujours été fidèle et vaillant, son maître ne lui en gardait aucune reconnaissance. Il devenait vieux et, de jour en jour, moins capable de travailler, car ses forces trahissaient son courage. Il finit par s'apercevoir qu'on avait quelques fâcheux projets à son égard. Sa ration diminuait et on le négligeait de plus en plus. Il vit un matin arriver un étranger qui le considéra de près et convint de donner un certain prix de sa peau. À peine fut-il sorti que l'âne se débarrassa adroitement de son licou, se glissa hors de l'étable et se mit en route pour la ville voisine. « Puisque la force matérielle me manque, se dit-il, je ferais bien d'embrasser une carrière libérale. J'ai souvent vu des gens rire et s'étonner quand ils me prenaient envie de chanter dans la rue. J'ai la voix sonore et retentissante et je ne puis manquer de réussir à l'opéra. Je me ferai donc artiste et, qui plus est, musicien. » Au sortir du village, il rencontra un vieux chien qu'il reconnut pour avoir échangé autrefois avec lui quelques morsures et quelques coups de pied. Le chien était fort triste et l'âne, qui avait bon cœur, s'informa de la cause de son chagrin. « Hélas, lui dit la pauvre bête, vous me voyez désespéré. J'ai été, dans mon jeune temps, le chien le plus fier du monde. Je tenais la tête dans les chasses du roi, et il n'est sorte d'honneur dont je n'ai été comblé. Mais je deviens vieux et faible. Je me suis laissé, hier, distancé par un lièvre, et mon maître a voulu me casser la tête. Je me suis naturellement enfui. Que vais-je devenir à présent, et comment pourrais-je gagner ma vie ? Aboyez-vous comme il faut ? Lui demanda l'âne. Connaissez-vous la musique ? À merveille, dit le chien, j'ai divers tons d'aboiement pour accompagner les fanfares de chasse. Je hurle à la lune sur un ton plaintif et j'ai des cris suraigus qui sont fort estimés au théâtre, mais je ne m'en sers ordinairement que lorsqu'on me fouette. « Eh bien, dit l'âne, avec des talents pareils, vous ne pouvez manquer de parvenir. Je vais à la ville me faire musicien. Accompagnez-moi et nous tâcherons de faire fortune ensemble. » À quelque distance de là, ils aperçurent une chatte grise assise au milieu du chemin et qui faisait la figure la plus piteuse du monde. Elle se dérangea à peine pour les laisser passer et l'âne s'étonna de son découragement. « Qu'avez-vous donc, dame Minette ? » lui demanda-t-il obligeamment. « Vous semblez fort affligée. N'habitez-vous plus cette grande cuisine où je portais du lait dont vous aviez la meilleure part ?»« Hélas ! » dit la chatte en se léchant les lèvres de sa langue rose. « Quel souvenir me rappelez-vous ? Le temps passé n'est plus. J'ai vieilli sur les gouttières. Je n'ai plus l'agilité nécessaire pour attraper les souris de la maison. Je ne suis bonne qu'à dormir dans les cendres du foyer en me grillant les moustaches. Cela a déplu à ma maîtresse qui a eu la funeste idée de me noyer. Je me suis sauvé à grand-peine, mais je ne sais guère comment je pourrais vivre maintenant. » « Pourtant, dit l'âne, vous n'êtes pas sans mérite. Je me rappelle vous avoir entendu chanter fort agréablement autrefois. »« En effet, dit-elle, j'ai donné des concerts avec succès sur les toits du voisinage. J'ai des notes fort expressives et une grande souplesse de voix. » « Auriez-vous quelque répugnance à vous engager comme chanteuse ?» « Oh, pas le moins du monde, dit-elle, si l'on me donne une pâtée suffisante. »« Venez donc avec nous, dit l'âne, car nous ne pouvons manquer de réussir. » Ils se remirent en route et marchaient depuis assez longtemps, lorsqu'ils furent salués par une voix éclatante. C'était un maître coq juché sur un poulailler où il piétinait d'une façon singulière en criant de manière à étourdir les environs. « Ah, voilà un beau chanteur, dit l'âne, mais que signifie tout ce bruit? Peut-on savoir, mon cher monsieur, pourquoi vous vous égosillez ainsi ?»« Je prévenais notre monde, dit le coq, que nous aurions beau temps pour notre jour de lessive. Si je piétine en même temps, c'est que je suis indigné. Ma maîtresse et le cuisinier, au lieu de me remercier de mes peines, veulent me couper la tête pour faire du bouillon à leurs invités. » « Ah, voilà de méchantes gens, dit l'âne, que ne nous accompagnez-vous? Nous sommes libres et voyageons en artistes un peu à l'aventure. Vous n'aurez peut-être pas toutes vos aises avec nous, mais vous ne perdrez pas la tête, et c'est un grand point. « Je vous remercie, dit le coq, quelle espèce d'artiste êtes-vous? Nous sommes musiciens, dit l'âne, et nous allons donner des concerts à la ville voisine. Les ténors sont fort chers, et vous pourriez nous rendre de grands services. Venez-vous, décidément? Oh, de tout mon cœur, dit le coq. Et ils s'en allèrent joyeusement ensemble. La nuit vint sur ces entrefaites. La ville était encore fort loin, et ils se résolurent de se reposer dans un grand bois où ils se trouvaient. Ils choisirent un vieux chêne pour y établir leur bivac. L'âne et le chien se couchèrent sur les broussailles, la chatte grimpa dans les branches, et le coq, qui voulut leur servir de sentinelle, alla se percher aussi haut qu'il put. Selon sa coutume, il explora de l'œil le pays environnant pour voir si tout était tranquille, et, tournant sur lui-même, il aperçut dans le lointain une lumière assez vive et appela ses compagnons qui commençaient à dormir. « Il doit y avoir une habitation près d'ici, leur dit-il, car j'aperçois du feu dans une espèce de masure. » « En ce cas, dit l'âne, nous ferons bien d'y aller voir. Le gazon de la forêt est humide et je ne serais pas fâché de m'étendre sur un peu de paille. »« Ajoutez, dit le chien, que nous pourrions bien rencontrer là-bas un os ou quelques débris de cuisine. » La chatte approuva cette observation et, le coq étant descendu, ils se dirigèrent vers le point lumineux qu'il avait vu en observant un grand silence. Ils finirent par se trouver devant une belle maison qui paraissait remplie de monde, bien qu'elle fût perdue au centre de la forêt. Elle était splendidement éclairée, et par les cris qui s'en échappaient, on devinait qu'une foule de gens célébrait des noces et se livrait à des divertissements extraordinaires. L'âne s'avança courageusement et monta vers une fenêtre pour regarder à l'intérieur. « Eh bien, camarade, dit le chien, que voyez-vous ? » « Oh, des choses superbes, répondit l'âne, je vois une table magnifiquement servie, avec des viandes et des fruits de toute espèce, mais les gens qui l'entourent ont si mauvaise mine qu'on dirait une bande de voleurs. « Ce sont des voleurs en effet, dit le chien, et j'ai entendu dire que cet endroit de la forêt est très dangereux, nous risquons d'être mal reçus. » C'est dommage, dit le coq, car ce serait un agréable séjour. Minette ne disait rien, mais elle se peignait la moustache et regardait la maison d'un air attendri. L'âne, qui avait de l'imagination, proposa un expédient qui réunit tous les suffrages. Si vous voulez me croire, dit-il, nous commencerons ici notre carrière musicale. Pour être des voleurs, ces gens, peut-être, ne manquent pas de goût. Donnons-leur un concert dans toutes les règles. S'ils sont satisfaits, ils nous admettront à leur table. S'ils ne sont pas contents, nous en serons quittes pour détaler. C'est bien dit, répondit le coq, nous n'avons qu'à nous installer. L'âne se leva sur les pieds de derrière et s'appuya presque droit contre la fenêtre. Le chien sauta sur son dos, Minette grimpa sur le chien et le coq se percha sur la tête du chat. « Y sommes-nous ? » dit le coq qui s'attribuait les fonctions de chef d'orchestre. « Nous y sommes, dit l'âne, et je me sens particulièrement en voix. Allez la musique et ne ménagez pas !» Un vacarme effroyable retentit tout à coup. L'âne se mit à braire, le chien aboya, le chat miaula et le coq poussa des coquericots forcenés. « Nous sommes perdus !» s'écrièrent les voleurs. « On vient sûrement nous arrêter !» Au même instant, l'âne, qui balançait gravement la tête, se laissa emporter par la mesure et donna du nez dans les carreaux qui se brisèrent avec fracas. Le chien du coup fut jeté sur la table, il s'y abattit avec Minette et le coq dont les ailes éteignirent une partie des lumières. L'âne ne voulut pas abandonner ses compagnons et sauta près d'eux. La table fut renversée et les voleurs, au comble de la frayeur, prirent la fuite dans l'obscurité, se croyant poursuivis par une légion de diables. Nos voyageurs se félicitèrent de ce succès inespéré, et prenant la place des fugitifs, ils firent bonne chère et ne s'inquiétèrent pas d'un peu de poussière que les plats avaient ramassée pendant cet esclandre. Leur repas se prolongea fort avant dans la nuit, et pour célébrer ce brillant début, ils burent tant et tant que le sommeil finit par s'emparer d'eux. Au lieu de se barricader dans leur nouvelle demeure, ils ne songèrent qu'à dormir, et chacun chercha, pour cela, la place qui lui convenait le mieux. L'âne se coucha près de la porte d'entrée, sous un hangar où se trouvait un grand amas de paille fraîche. Le chien s'étendit sur une natte dans la plus belle chambre, la chatte se roula près du feu sur les cendres chaudes, et le coq se percha sur le toit de la maison. Ils s'endormirent bientôt profondément. Cependant, les voleurs, après avoir couru une bonne lieue, s'arrêtèrent essoufflés, et, voyant qu'ils n'étaient pas poursuivis, ils s'assirent pour tenir conseil. Ils ne se rendaient pas bien compte de ce qui les avait fait déloger, et ils pensèrent qu'ils s'étaient trop pressés de s'enfuir. Leur capitaine, qui était le plus hardi de la troupe, se chargea de pousser une reconnaissance et de venir voir ce qui se passait dans la maison. Les voleurs l'accompagnèrent jusqu'à quelque distance et, voyant tout tranquille, le capitaine s'avança hardiment et pénétra dans l'habitation dont les portes étaient restées ouvertes. Il parcourut plusieurs appartements sans rien trouver d'extraordinaire. Enfin, il arriva à la cuisine et pensa qu'il continuerait mieux ses recherches avec de la lumière. Il trouva une allumette à tâtons et, se penchant vers la cheminée pour l'enflammer, il réveilla la chatte qui ouvrit ses yeux brillants. L'homme crut voir des tisons et en approcha la main, mais Minette prit fort mal cette liberté et lui sauta au visage qu'elle déchira de ses griffes en soufflant avec une grande colère car il avait failli l'éborgner. Le capitaine, horriblement effrayé, recula pour chercher la porte, mais il trébucha sur le chien qui lui saisit les mollets à belles dents et lui mit ses chausses en lambeaux. L'âne, curieux de voir la cause de ce tumulte, arriva à temps pour lancer au voleur une terrible ruade, et le coq, le souffletant de son aile, lui chanta si fort dans l'oreille qu'il faillit le rendre sourd. Aveuglé, meurtri, étourdi par cette aventure, le capitaine courut rejoindre ses camarades, qu'il trouva fort en peine de lui. « Il faut partir, dit-il, et pour toujours, car notre maison est au pouvoir des mauvais génies. J'ai trouvé dans la cuisine une sorcière à yeux de feu. Elle m'a craché au visage et égratigné, comme vous le voyez. » Un méchant nain qui est son esclave s'est jeté sur moi et m'a dévoré les jambes sans pitié. Comme j'arrivais dans la cour, un monstre noir m'a frappé d'une massue, et le diable lui-même m'est tombé sur la tête en criant « Jetez-moi ce coquin dans un puits !»« Voyez plutôt sur moi les preuves de ce que j'avance !» Les voleurs épouvantés chargèrent leur capitaine sur un mulet, car il pouvait à peine marcher, et s'éloignèrent du pays pour n'y plus revenir. Quant aux musiciens associés, ils trouvèrent leur séjour si agréable qu'ils résolurent de s'établir dans la forêt jusqu'à la fin de leur jour. J'ai tout lieu de croire qu'ils y sont encore.